Le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue au CELIF. C'est la première journée ici, tout près de la porte de la Villette à Paris. On est en compagnie de plusieurs interlocuteurs pour parler e-sport et collectivité. J'ai le plaisir d'accueillir Valentin hier. Bonjour Valentin. Vous êtes adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, en charge du développement local et sportif. Et on va voir que l'e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du sport. Olivier Lebévert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement du CDFAS. Département Val-d'Oise. On va expliquer ce que c'est que le CDFAS dans quelques instants. Et Rémi Chanson, bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Armateam.
Exactement.
Voilà, alors messieurs, merci de participer à cette table ronde. Vous sortez d'une table ronde en vrai. Là, on pourra en faire profiter un maximum d'auditeurs. Je commence, par vous, Rémi Chanson, le président d'Armateam. Un mot sur Armateam et ensuite on verra avec vous que c'est exactement que l'e-sport.
Alors Armateam, à la base, c'était un club de joueurs. Donc on a participé à des compétitions un petit peu partout dans le monde dès les fins des années 90, avec des tournois aux États-Unis, en Scandinavie, vers 2002, 2003, 2004. Et puis on s'est rendu compte que en France, il y avait des compétitions, mais il n'y en avait pas forcément tant que ça, parce que justement, c'était un peu un marché de niche. Donc on s'est un peu plus développé dans la partie communication. On a créé une web télé, une télé sur Internet, pour justement...
Armateam TV.
Voilà, exactement, sur Twitch, enfin Dailymotion puis Twitch, pour justement qu'on puisse voir les compétitions, les tournois, les joueurs s'entraîner. Puis après, on s'est dit, le problème, c'est que ça manque aussi d'événements. Et donc, de plus en plus, on organise des compétitions, on organise des événements, le tout streamé, pour que les gens puissent se déplacer sur place et le regarder sur Internet.
D'accord. C'était quoi les gens en 2000, là, quand vous avez commencé?
Alors, fin des années 90, c'était StarCraft 1. Ouais. Pour ceux qui connaissent, Quake et Counter-Strike, 2001.
Voilà.
Donc ça, c'était vraiment les jeux de cette époque-là. Après, un peu plus tard, c'était Warcraft 3. Et puis Unreal Tournament, qui est un autre FPS. Et puis là, les jeux d'aujourd'hui, c'est plutôt League of Legends, Smash Bros, FIFA.
D'accord. Vous continuez à jouer?
Alors moi, à titre personnel, oui, je joue un peu à LoL. Mais par contre, c'est vrai que je passe plus de temps à organiser des compétitions et des tournois pour les autres.
Et à faire jouer les autres, évidemment. Olivier Levévert, on avait dit justement, préciser ce que c'est que le CDFAS.
Alors,
CDFAS,
c'est un centre sportif de haut niveau, en fait, qui appartient au département du Val-d'Oise et qui a pour vocation, à la base, de former l'élite sportive de demain. Donc, les jeunes qui rentrent en équipe de France, en hand, en basket, en athlétisme, etc. Et donc, voilà. Et après, on s'est ouvert.
Un peu comme d'autres.
Comme l'INSEP, un mini INSEP ou un mini CREPS. On a sauté sur l'opportunité du développement de l'e-sport pour créer notre propre événement e-sport.
E-sport, et ça vise à former aussi des champions comme des vrais champions sportifs.
Alors, on a pris contact avec en fait une agence qui s'appelle Vitality, qui est un des plus gros teams français, qui s'est rapproché de nous dans un premier temps parce qu'ils voulaient en fait professionnaliser la formation de leurs joueurs. Faut savoir qu'aujourd'hui, ils achètent des joueurs dans leur team comme dans le foot, donc ils mettent de l'argent sur la table et la durée de vie en fait de ces joueurs est très courte parce que en fait c'est quelques années. Et aujourd'hui, ils essayent d'amortir, si on peut parler comme ça, de leur investissement en ayant une durée de jouabilité qui est plus longue. Et donc, ils veulent les former vraiment comme des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils veulent leur donner une hygiène alimentaire, leur faire pratiquer du sport, etc., pour qu'ils soient plus performants sur le terrain et qu'ils durent plus longtemps. Donc, comme on a cette expertise au niveau des sportifs, des jeunes, aujourd'hui, ils veulent créer en fait en internat chez nous un team e-sport qui serait qui partagerait en fait tous les services qu'on a, psychologie,
bien sûr, ouais. Qui pourrait s'entraîner comme exactement. Tous les autres sportifs, mais j'allais dire dans la vie réelle, c'est pas gentil, mais en tout cas pour des sports plus traditionnels, on va dire. Valentin, vous êtes adjoint au maire de Vitry-sur-Seine en charge du développement social et sportif. Alors l'e-sport, ça fait partie du sport à Vitry-sur-Seine, ou ça pourrait le devenir?
Pratique en plein essor. Aujourd'hui, il n'est pas du tout inscrit dans les mœurs, en tout cas. On n'a pas d'association ou de club de e-sport à Vitry-sur-Seine. Donc je pense que c'est plutôt une activité en devenir, avec la même exigence sportive que toute autre pratique sportive.
E-sport comme sport électronique, e-sport. Je m'adresse à vous, Rémi, notre mémoire numérique, en tout cas des jeux hein, depuis Counter-Strike ou d'autres, ça rappellera des souvenirs à certains. C'est vrai qu'on certains, peut-être moi dont je faisais partie il y a encore peu de temps, ne prennent pas encore la mesure du phénomène e-sport. Hein. C'est quand on parle effectivement de sportifs qui vont s'entraîner, c'est que ça génère une économie incroyable, déjà parce que les jeux, je crois, l'industrie du jeu a dépassé celle du cinéma, ça se compte en milliards de dollars, les éditeurs, et puis parce qu'on a justement, à travers ces équipes, maintenant, eh bien, des gens qui sont payés, une économie, des cash price, c'est-à-dire des prix en monnaie sonnante et trébuchante, peut-être en bitcoin, on ne sait pas, en tout cas, aller chercher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet essor là, comme ça, du e-sport en quelques années finalement?
Alors les compétitions, parce que l'e-sport, donc c'est les compétitions de jeux vidéo, ça a commencé des années 70, hein, sur les bornes Atari, bornes d'arcade, etc. Mais on va dire que ça a vraiment pris son essor moderne fin des années 90, avec l'émergence de deux jeux, donc Quake et StarCraft, avec la première gros tournoi en 96, QuakeCon. Et puis depuis, bah voilà, hein, y avait des passionnés, donc ils ont essayé de professionnaliser ça, avec des tournois de plus en plus gros. Alors, ce qui a vraiment beaucoup booster le secteur, ça a été l'Asie avec la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est très vite appropriée et a eu les premiers pro-gamers, donc joueurs professionnels. On est déjà dans le début des années 2000, hein, donc ça fait plus de 20 ans, et dont un qui s'appelait Slayer Boxer, qui était un joueur de StarCraft, qui est devenu une star dans tous les sens du terme. Il y a eu des livres sur lui, films sur lui, etc., etc. Donc c'est vrai que nous, en Europe, moi je jouais déjà à l'époque, on se disait « Ah, mais la Corée, c'est autre chose ». Mais non, parce qu'aux États-Unis ça a beaucoup pris, alors un petit peu après. Et puis en Europe aussi, c'est vrai que les premiers joueurs professionnels en France, on est plutôt vers 2011-2012. Jusqu'à 2011-2012, les joueurs français, ils devaient s'expatrier. On a eu un joueur qui s'appelle Elki, qui est devenu d'ailleurs un des champions du poker, qui est parti en Corée, puis en Chine. Pareil pour quelques années plus tard pour Todd. Donc c'est vrai que les joueurs français ne pouvaient pas devenir professionnels en France, mais ça y est, maintenant c'est le cas. Hein. On a plusieurs centaines de joueurs professionnels en France. Et pour donner un peu un ordre d'idée en termes de budget, bah, le chiffre de l'affaire du jeu vidéo a explosé ces dernières années. Hein. On est à plusieurs milliards, mais même plus de 100. Hein. Je crois que c'est 110 ou 115 milliards, ouais. Ce qui est devenu le bien culturel numéro un de loisir.
Et ça continue à grossir. Hein,
et ça continue, c'est en croissance. Alors, un petit peu, hein, ça augmente de 3-4%, mais c'est déjà très bien. Et puis, alors, il y a l'e-sport, hein, qui est le petit frère, qui est la vitrine, parce que c'est vrai que tous les jeux ne sont pas e-sport. Puis, dans les jeux, on va dire, il y a beaucoup de jeux sur console, en solitaire ou sur mobile. Hein, donc, c'est pour ça que si on regarde que l'e-sport, aujourd'hui, le marché de l'e-sport en 2020 était à un peu plus d'un milliard. 1,2 milliard, mais par contre, lui, il y a une très grosse croissance. On parle de 15% par an, là où le jeu vidéo est plutôt autour de 2-3. Donc, ça a beaucoup attiré les investisseurs qui se sont dit, oui, c'est plus petit, mais donc c'est le moment d'y aller. Et donc, c'est un secteur où il y a énormément de levées de fonds, et on parle de levées de fonds de dizaines, voire presque maintenant de centaines de millions de dollars. Donc forcément, ça génère beaucoup, beaucoup d'argent dans la machine, ce qui permet d'avoir un des joueurs professionnels, mais ça fait pas mal de temps. Mais maintenant, comme on disait, tout un encadrement, que ça soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de coach, de manager, d'entraîneur, etc. Donc maintenant, une équipe e-sport, c'est plus les 5 joueurs, mais c'est un staff, c'est presque 20-25 personnes, parce que justement, beaucoup de gens y croient, beaucoup de gens considèrent que ça va être le sport de demain. Alors pas forcément par opposition au sport traditionnel, mais en tout cas, ça va émerger. Donc oui, c'est un secteur qui est en plein essor.
Ouais, c'est intéressant parce qu'on se dit, bah, tiens, pour une ville, hein, c'est vrai que c'est un peu la vitrine d'avoir son club de foot, le FC Vitry, je ne sais pas, non ?
C'est à Vitry ou l'ESV Vitry.
Voilà. Demain, est-ce qu'on peut imaginer avoir un club de e-sport, c'est-à-dire des joueurs pros qui représentent la ville? Pourquoi pour poursuivre ma pensée, Valentin, pourquoi les mairies aujourd'hui s'intéressent-elles tant à l'e-sport ?
Nous, on a vraiment eu une approche plutôt de la promotion du sport pour tous. On n'a pas eu cette approche compétitive. L'objectif, c'était vraiment une initiative de faire découvrir cette nouvelle discipline pour les jeunes. Ça s'inscrivait notamment durant les congés estivaux. L'idée, c'était de pouvoir occuper aussi notre jeunesse qui n'a pas forcément la possibilité de partir en vacances. Donc, on a proposé cette initiative qui a très bien marché. Sur 2 semaines, on a eu 600 visiteurs. Donc c'est une réelle réussite à l'hôtel de ville. Pourquoi l'hôtel de ville? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'était aussi ce côté un peu symbolique, renouer après des mois de restrictions sanitaires, comment on renouait aussi ce lien entre la population et les institutions. Et le but, c'était de faire venir des gens à l'hôtel de ville et leur montrer que l'hôtel de ville, ça peut être aussi un lieu de vie. Et le e-sport, je pense, peut incarner justement toutes ces valeurs aussi bien de solidarité, de vivre ensemble, mais également de sport collectif.
Ouais, ça marche aussi bien, parce qu'on sait que le sport est formateur, ça marche aussi bien quand c'est électronique.
En tout cas, la dynamique qu'il y avait durant cet événement, ça a bien marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortaient de leur cercle d'amis pour aller découvrir d'autres personnes, faire du lien et voilà, rencontrer, discuter. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour les collectivités territoriales, en tout cas, de mener ce type d'initiative pour créer toujours ce lieu, créer ou renouer le lien social qu'il y a entre les jeunes.
Pour le CDFAS, Olivier, c'est pareil, c'est aussi un enjeu d'avoir de plus en plus de gens qui s'y intéressent, peut-être qui rejoignent votre structure. Alors, je ne sais pas si on vient d'abord pour un sport traditionnel ou pour l'e-sport, qu'est-ce que vous observez ?
Alors, nous, au CDFAS, on vient pour le sport, à la base.
Là, sport c'est physique, vrai, on va dire.
Sport physique, voilà. Là,
la transpiration, on va avoir avec Rémi si on transpire après en e-sport, hein, peut-être.
Là, sur la partie e-sport, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on a voulu faire, mais on n'a pas voulu non plus perdre notre ADN. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements e-sport qui émergent un petit peu partout en France, dans les collectivités qui veulent vanter le côté dynamique de leur territoire, etc., et qui font des événements e-sport. Nous, on a voulu faire ça aussi pour être sur cette vague et sur la tendance, mais avoir une partie sport qui s'intègre aussi à cet événement. C'est-à-dire qu'on a obligé les équipes qui s'inscrivaient à jouer à la fois sur le terrain et devant les manettes. C'est-à-dire que l'équipe qui s'inscrivait au tournoi allait jouer sur le terrain, au foot, et après se retrouver devant les manettes et jouer à FIFA. Et c'est l'équipe qui gagnait sur les deux tournois qui gagnait le tournoi.
Ah, c'est pas mal. Bon, il y avait une pondération ou c'était là un pour un ?
Alors, c'était un pour un, mais on s'est rendu compte au niveau réglementaire que sur une première édition, on a fait quelques erreurs parce qu'on marque moins de points sur le terrain, sur des goals à verrage.
Eh oui, bien sûr. Voilà. On peut pas faire un 8-0.
C'est ça. Et là, pareil, on a fait la même chose en basket avec NBA 2K et la partie basket. Et là, c'était d'autant plus vrai.
Ouais. Du coup, Armatim, Rémi, vous êtes spécialisé justement dans l'organisation de ces tournois. Comment ça se passe, tiens, si on est au CELIF, donc les décideurs d'Île-de-France, s'ils se disent, tiens, moi, je vais faire comme à Vitry, j'ai envie d'organiser mon événement e-sport, vous livrez, entre guillemets, le tournoi clé en main. Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution clé en main. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez deux exemples qui sont extrêmement différents. Le premier, c'est en effet plus un tournoi, c'est des faces. L'idée, c'était vraiment de faire venir des joueurs de la France entière, avec même des joueurs internationaux qui sont venus. On a eu un joueur américain, on a même eu un joueur qui est venu d'Arabie Saoudite. On l'a vu apparaître comme ça. On s'est dit, ben voilà, c'est ouvert pour tout le monde. Donc il y a vraiment un côté très, 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 très compétitif, où, comme dans une compétition de sport, plus le tournoi avance, plus il reste les meilleurs, plus ça crée une hype. Et puis ça s'est évidemment beaucoup vu sur le streaming, puisque c'est vrai que quand on parle d'e-sport, on pense aussi au streaming, à la chaîne Twitch, où il y a eu presque 6 ou 7 000 spectateurs simultanés pour regarder les finales des différents tournois. Donc là, on est vraiment sur une approche extrêmement compétitive qui est aussi l'ADN du CDFAS. Et au niveau de Vitry, on est beaucoup plus sur le vivre ensemble, l'e-sport pour tous. Donc ça a été de montrer à des jeunes qui pouvaient jouer en dehors de chez eux et aussi de découvrir pour certains d'autres jeux, de jouer ensemble, etc., etc. Donc nous, l'idée, dans un premier temps, c'est de savoir quelle est la vocation. Est-ce que c'est plutôt culturel ? Est-ce que c'est plutôt social ? Est-ce que c'est plutôt compétitif ? Est-ce que c'est un petit peu de tout ? C'est vrai que le gros intérêt des événements e-sport, c'est comme ça attire des jeunes. Une fois que les jeunes viennent, on peut les sensibiliser à différentes choses. On peut, si on travaille avec des médiathèques, par exemple, montrer aussi toute la culture qui est à côté autour du jeu vidéo, les métiers. Il y a aussi un aspect qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que devenir joueur professionnel dans l'e-sport. On parlait des coachs, des managers, mais il y a aussi des organisateurs d'events. Il y a beaucoup de captation audiovisuelle, etc., graphistes, community managers. Donc il y a énormément de métiers aussi, qui sont des métiers qui souvent intéressent beaucoup les jeunes, mais qui ne sont pas forcément bien connus. Et lors de ces événements-là, ça permet aussi de montrer certaines filières, certaines écoles. Il y a des écoles qui viennent, qui présentent un peu leurs filières, etc. Donc le jeu vidéo va faire venir les jeunes, on va dire. Puis après, ça dépend ce que la collectivité veut en faire. Et nous, l'idée, c'est d'être au plus proche des besoins. Il y a certains lieux, ça peut être l'attractivité du territoire, par exemple. Il va y avoir une nouvelle école qui va apparaître, montrer qu'en effet, ça bouge, c'est dynamique, c'est moderne, etc. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on nous demande. Mais nous, après, l'idée, c'est de présenter ça clé en main, en effet.
Oui. Vous avez évoqué justement la plateforme Twitch. Bon, on rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est vrai que c'est une plateforme, même Twitch TV maintenant, j'ai vu, qui vient d'apparaître, en tout cas on a beaucoup de pubs en ce moment, qui relaie en fait les parties que font les champions, ou les moins champions d'ailleurs, ou les gens connus. Comme ça, il y a des mégastars qui sont suivis par des milliers, voire des millions de fans.
En fait, au départ, il y a eu une création d'un système de live sur Internet, donc ça s'appelait Justine TV, qui était complètement généraliste, il y avait de tout. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeu vidéo, c'était une période, on va dire, qui était extrêmement critiquée par les médias, pour tout un tas de raisons. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que le secteur du jeu vidéo a eu l'impression qu'il ne pouvait pas se faire entendre. C'est-à-dire que dans les médias traditionnels, que ce soit radio, télévision, etc., bah, en fait, le jeu vidéo était inexistant, alors qu'on sortait quand même vraiment du marché de niche, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, dû aussi à l'appétence au numérique, hein, quand on est au jeu vidéo, on est déjà sur Internet, etc., bah, c'est vrai qu'il y a eu de plus en plus de chaînes sur le jeu. Alors, soit des tournois, des compétitions, soit tout simplement des joueurs qui s'entraînent. Et c'est devenu tellement important que c'est devenu plus de 90% du contenu de Justine TV. Et donc, ils ont appelé ça Twitch. Et puis après, Twitch a carrément englobé, puisqu'au début, il y avait de la cuisine, de la découverte et tout, mais le jeu vidéo a pris une part importante. Alors aujourd'hui, Twitch est devenu tellement gros...
Et Twitch a été racheté.
A été racheté par Amazon pour quasiment 1 milliard. Et c'est vrai que ça a été assez important parce que, sans vouloir critiquer les médias traditionnels, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment un côté où, dans les années 2000-2010, il n'y avait pas un reportage sur l'e-sport sans un psychologue pour expliquer est-ce que le jeune il faisait pas une distanciation de la schizophrénie, etc., etc. Et en fait, ce qui a permis de parler un peu positivement de l'e-sport, ça a été ses résultats business, c'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de chaînes type BFM Business, Forbes Challenge et tout ça, qui se sont dit mais attendez, là il y a un vrai secteur qui est en train de s'épanouir, et les gens sont très étonnés de savoir qu'il y a des jeux type Call of Duty qui ont généré plus d'argent que tous les Harry Potter ou que tous les Star Wars réunis. Mais en fait, les gens n'étaient pas dans la même dimension.
Ouais, bien sûr.
Et il y a deux événements qui ont marqué. Ça a été le premier, le rachat de Twitch à 1 milliard. Là, tout de suite, c'est dit, ah oui, là, en parlant de milliards, qu'est-ce qui se passe? On a raté quelque chose, on va dire, dans le milieu économique. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un jeu qui, en une journée, a généré 850 millions de dollars de recettes. Et là, tout le monde s'est dit, mais c'est beaucoup plus que tous les films, en fait. Et donc,
c'est lequel?
Ça a été GTA quand il est sorti. Ah. Donc, en fait, il y a eu une prise de conscience que l'univers du jeu vidéo, en fait, c'était pas juste pour les enfants, c'était pas, on va dire un loisir à côté, mais que c'est devenu au cœur de l'économie. Et aujourd'hui, les sorties de jeux vidéo sont attendues comme des sorties de films.
Ouais, ouais. D'ailleurs, annoncées en 4x3.
Annoncées avec des trailers. Puis maintenant, il y a des acteurs. On pense à comment il s'appelle, l'acteur de Matrix là.
Keanu Reeves
qui participe. Et puis au début c'était que la voix, mais maintenant ils sont complètement digitalisés, etc. Donc c'est devenu des phénomènes, des jeux qui sont attendus des fois 1 an, 2 ans,
et qui coûtent extrêmement cher en budget, hein.
Ah bah, qui ont des budgets qui ont explosé, dont des budgets marketing qui ont aussi explosé, mais parce qu'aujourd'hui on parle de, comme je disais, d'un marché, alors là le jeu vidéo, hein, mais de plus de 100 milliards de dollars. Donc l'e-sport qui est la vitrine, parce que le jeu vidéo il est assez difficile à mettre en scène, c'est une pratique, c'est un peu comme la lecture, c'est assez difficile à mettre en scène, alors que l'e-sport c'est une compétition, ça se fait dans des stades, ça se fait dans des salles, etc. Il y a un show, il y a un vrai show derrière. Et c'est pour ça que l'e-sport profite totalement de cette dynamique aujourd'hui, de la part des éditeurs qui se disent, nous on a un jeu qui marche très bien, on a envie de le pousser, on a envie de fidéliser nos joueurs, donc on investit dans l'e-sport. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des compétitions aujourd'hui qui n'ont rien à envier à des matchs de NBA et autres en termes de scénographie, de show, etc.
Ah ouais, en tout cas, il y a une énorme audience et vous l'avez dit, ça draine toute une économie. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, du coup, il y a des politiques ou des animateurs de la vraie télé qui viennent sur Twitch. Je pense à Samuel Etienne, qui en ce moment a des petits soucis. Apparemment, il aurait été banni, mais bon, il reviendra. Valentin.
Qu'aurait pas dû. Enfin, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais.
Qui correspond, je crois que c'est une histoire d'une paire de fesses qu'il aurait montré pour une émission.
D'un article, Parisien.
Voilà, et ça.
Mais bon, ça c'est. Non, mais par contre, au niveau des hommes politiques, bien sûr, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui a créé sa chaîne, qui est apparu à plusieurs reprises, et maintenant, on a quand même pas mal de médias traditionnels qui sont sur Twitch. Alors, avec un accueil plus ou moins houleux, des fois, des gens qui sont sur Twitch et qui considèrent qu'il faut séparer. Enfin, c'est un peu la revanche, hein, après une vingtaine d'années.
C'est un énorme bassin d'audience.
Bien sûr. Et puis, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regardent plus la télé et qui sont que sur Twitch.
Ou sur YouTube, effectivement, pour les plus jeunes. Valentin, ça veut dire que la prochaine campagne, elle sera sur Twitch aussi, pour la mairie de Vitry-sur-Seine? Pas encore, peut-être.
Non, je pense pas que la population, en tout cas, ait fait le pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une partie de la population, notamment les plus jeunes, qui s'inscrivent justement sur ce type de réseaux sociaux. Mais les principaux électeurs, les principaux personnes qui s'intéressent même au débat politique, etc., c'est pas sur ce type de plateforme. Et les canaux traditionnels de communication restent bien évidemment les bons en politique.
Mais après, c'est peut-être pas les mêmes tranches d'âge non plus, hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Je voulais avoir votre retour d'expérience, après cette manifestation e-sport que vous avez organisée. Vous l'avez dit au début, c'était pour intéresser, faire venir les jeunes, peut-être les occuper pendant des vacances à rallonge quand on n'a pas l'occasion effectivement de pouvoir se balader. Quel retour, comment ça a été perçu par la population? C'était
C'était plutôt positif.
C'était plutôt positif, non. C'était vraiment un bon événement. J'ai été assez surpris. Je ne pensais pas qu'il y aurait tout cet engouement. Quand on voit le tout premier jour, on avait quelques craintes parce que il n'y avait pas forcément une grosse mobilisation. On n'avait qu'une trentaine de personnes en fin de soirée qui s'est mobilisée. Par la suite, en fait, le bouche à oreille, et on voit qu'en réalité.
Les gens sont venus, finalement.
Ils sont venus, mais.
Ça a duré combien de temps l'opération ?
Deux semaines.
Deux semaines. Pratiquement, il y a quoi ? Vous mettez à disposition quoi, des télés, des consoles, tout est mis en place ?
C'est ça. Alors, c'est plusieurs ordinateurs, des consoles. On avait 9 jeux différents pour que le public puisse investir et en tout cas choisir les jeux qui correspondent le mieux. On a visité.
C'est gratuit, évidemment.
C'est gratuit, bien évidemment. C'était l'objectif, voilà. C'était une opération gratuite et plutôt des jeux de type coopératif, justement, pour créer ce lien. Et après, on a exclu tous les jeux type violence ou de guerre, parce qu'on voulait pas non plus. On reste une collectivité. On voulait pas non plus faire la promotion de certains jeux. Donc, on était plutôt sur des jeux, on va dire, plus basiques et accessibles à une tranche d'âge aussi, plus jeune, parce que comme vous savez, hein, les jeux de guerre, ils ont forcément une limitation en termes d'âge.
Oui, mais même l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut jouer à tout âge, on le sait. Et en plus, il y a différents types de consoles, parce qu'il y a aussi bien. Maintenant, la console, vous le disiez, bon, déjà, il y a le téléphone, évidemment, la tablette, on a l'impression qu'on commence par là. Après, il y a des consoles de plus en plus performantes, et puis il y en a d'autres qui sont plus adaptées chez Nintendo, je crois, au casual gaming, la Switch. Là, qu'est-ce que vous avez mis à disposition ?
De tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait à côté des Switch pour jouer à Mario Kart, Smash Bros, etc. Donc, on va dire, c'est là où il y a le plus grand écart générationnel. Ouais. On avait des jeunes de 6-7 ans qui jouaient avec des adultes de 45-50. Hein. Et puis après, c'est vrai qu'on a des jeux qui, là, regroupent un petit peu plus, on va dire, le cœur de l'e-sport, c'est-à-dire entre 16 et 25. Donc, plutôt dans les 16-17, 15-16, on avait donc du Rocket League, du Fortnite, etc. Et puis, vers les 23, 24, 25 ans, on avait plutôt des joueurs de League of Legends. Mais c'est vrai que, oui, il y avait vraiment de tout. Et puis, c'est ça qui est très bien dans l'e-sport. C'est qu'il n'y a pas de clivage, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, ils font une première partie ensemble, puis ça se passe bien.
Puis un mélange jeune moins jeune aussi.
Bien sûr, tout à fait.
Tiens, j'ai une question pour Olivier. Vous qui avez mélangé les sportifs traditionnels et les sportifs e-sport, est-ce qu'on voit des appétences communes ou des traits, des traits de compétition, de réflexes ? Est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce que ça se compare, en fait, les deux disciplines.
Alors il y a des points de similitude. Il y a un esprit d'équipe dans les équipes et on voit qu'il y a des coachs dans l'e-sport comme dans le sport.
Ouais.
Il y avait des gens qui sont venus de Belgique avec leurs coachs, etc. Donc il y a une vraie organisation dans les deux. Après sur il y a des divergences aussi sur le côté forcément physique parce que au niveau
athlétique,
du sport
bien sûr.
Athlétique, on a vu des équipes de la NBA se présentaient, ils faisaient quasiment 2 mètres et puis les joueurs de e-sport ils étaient un petit peu plus fluets et puis bon ils se prenaient une grosse différence sur le terrain mais après ils rattrapaient leur score sur les manettes donc voilà. Maintenant sur la partie générale on a senti qu'il y avait beaucoup de points de convergence et les gens étaient là pour nous aider aussi à faire évoluer les règles, etc., pour qu'on aille vers quelque chose qui soit plus équitable. Forcément, on a fait des petites erreurs qui ont amené certaines équipes à nous faire quelques remarques, mais globalement, ça s'est très bien passé et les joueurs d'e-sport ont à la fois apprécié d'aller sur le terrain et inversement, les joueurs de sport ont apprécié l'inverse.
Ouais, pour avoir un petit peu déjà travaillé le sujet, c'est vrai que mine de rien, quand on fait de l'e-sport, on est aussi soumis à une énorme pression. Peut-être, Rémi, vous pouvez nous en parler, mais c'est vrai que y a des échéances aussi, comme des joueurs très célèbres, dans des très célèbres équipes, qui ont des petits coups de barre. Là aussi, ça ne pardonne pas, il faut être performant en fait, tout le temps. Il y a des objectifs, Olivier, de performance hein, aussi, pour les champions d'e-sport.
Ah ouais, clairement.
Ça veut dire qu'ils sont suivis aussi par psychologues, par des coachs Rémi.
Myriam, on parlera mieux.
Oui, c'est-à-dire que exactement comme dans le sport où il y a un Roland-Garros, un Wimbledon qu'on ne doit pas louper, il y a exactement l'équivalent dans l'e-sport. Donc on peut être le meilleur tout le temps, si on n'est pas bon le jour J, on passe à côté. Donc il y a une énorme pression déjà pour les joueurs pour se faire connaître, parce qu'ils ont des fenêtres de tir avec différents tournois, différentes compétitions où ils doivent être très bons. Et puis exactement comme dans le sport traditionnel, maintenant ça s'organise de plus en plus avec des systèmes de ligue où ils ont des matchs toutes les semaines. Et bah, ils ont un niveau de jeu à démontrer, donc ils ont une pression parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'argent en jeu autour d'eux, etc. Puis donc forcément on attend des résultats d'eux. Donc oui, la pression elle est importante. Et je reviens sur la petite pique sur la transpiration. Hein. C'est vrai que quand on compare le sport aujourd'hui, sur qu'on compare le basket avec un FIFA ou autre, il y a pas, oui, c'est clair qu'il y en a un où
on perd moins de calories quand même.
Et on voilà. Mais le sport, c'est pas que le basket ou le foot ou le rugby. Hein. Je pense au tir à l'arc, je pense aux échecs aujourd'hui qui est considéré comme un sport où il y a pas de problématique de transpiration et on va pas voir les joueurs d'échecs à chaque fois en leur disant mais vous transpirez pas. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sports cérébraux et c'est vrai que l'e-sport est un peu au milieu des deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une vraie réflexion. Faut être affûté sur ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de battre quelqu'un par rapport au jeu, tout ce qu'on sait, toutes ces connaissances. Et puis il y a énormément de réflexes et de dextérité. Aujourd'hui, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que dans les jeux e-sport, enfin, pas tous, hein, mais il y a quand même la plupart des jeux, aujourd'hui, même si vous savez exactement ce qu'il faut faire, il y a l'exécution. Tir à l'arc, on sait qu'il faut envoyer la flèche au milieu de la cible, mais après, il faut pouvoir le faire. Et bien, l'e-sport, c'est pareil. Il y a des petits moyens de comparer. Aujourd'hui, les joueurs coréens, sur certains jeux, ils montent à 400, 450 actions par minute. Aujourd'hui, même si vous cliquez un peu n'importe où, vous êtes à 80-90 parce que c'est un entraînement. C'est comme un virtuose d'un pianiste.
Oui, oui.
Il va arriver à faire des choses où même si vous savez exactement ce que vous devez faire avec vos doigts, bah, ça ne va pas suivre. Bah, là, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a l'acuité visuelle, il y a évidemment la dextérité, les réflexes. Sur un certain nombre de jeux, tout se joue sur les réflexes. Mmh. Et il y a des joueurs, ils sont juste incroyables, oui. Comme des pilotes de Formule 1.
Et sur le côté psychologique, je rejoins Rémi. Moi, ce qui m'a frappé, je connaissais pas vraiment ce milieu de l'e-sport, mais à la finale de Smash, l'Américain s'est fait battre par le Français et il s'est pris un vrai KO. C'est-à-dire qu'il était déboussolé.
Ah,
il d'accord. s'est levé de sa chaise et pendant,
ouais,
3-4 minutes, il était perdu.
Ouais.
Vraiment, il s'était pris un KO. Quoi.
Ouais, autre anecdote justement sur les réflexes, anecdote vraie, hein, pendant des tests justement pour passer l'armée, pour être recruté, l'officier avait dit mais vous avez triché. Et la personne avait dit mais non, en fait, je joue toute la journée, donc il avait battu complètement et
ça se travaille, hein.
L'ordinateur n'arrivait pas à interpréter en fait ce qu'il avait fait, il était allé trop vite par rapport au test qui lui était proposé. C'est assez étonnant, mais évidemment, alors psychologiquement, du coup, beaucoup d'entraînement aussi, des coachs, on l'a dit de plus en plus, bref, une vraie professionnalisation de ces sports. Question, Rémi, pour ceux qui nous écoutent, qui disent, alors peut-être que les parents vont réviser largement, disent, finalement... mon fils, ma fille, tu vas peut-être devenir une championne, parce qu'il y a des championnes. J'ai rencontré une championne de Tekken, alors ça date un petit peu.
Kayane,
exactement. Voilà, très, très sympathique, qui est animatrice, parce que souvent on se convertit, vous l'avez dit, dans, il y a pas mal de domaines, une fois qu'on lève un peu le pied, parce que voilà, on est battu aussi un peu.
Oui, mais ce qui est bien avec l'e-sport par rapport au sport, c'est qu'il y a plus régulièrement des comebacks. C'est vrai que dans le sport, c'est quand même assez compliqué quand on ne s'est pas entraîné pendant un an ou deux de revenir au top niveau. Ça arrive parfois, hein. Chez les femmes, certaines grossesses, ou chez les hommes, après des blessures, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors que dans l'e-sport, on va dire on prend l'exemple de Kayane, qui veut absolument se remettre à la compétition. Ça arrive souvent que pour tout un tas de raisons, il y a un peu une lassitude, donc plutôt le côté animation, enfin dans les métiers périphériques de l'e-sport. Puis à un moment donné, on retrouve l'envie, il y a un nouvel opus qui sort, on a envie d'aller dedans, et on se réentraîne, et on a des retours de joueurs comme ça, de premier plan, très haut niveau. Mm-hmm. Et donc pour revenir à Kayane, elle a dit qu'elle voulait vraiment se réinvestir dans la compétition. Donc ça fait aussi plaisir de voir ce côté-là, c'est-à-dire que les joueurs, ils s'éloignent un peu du haut niveau, et puis ils y reviennent, parce que ça leur manque, hein, tout simplement, hein, ces tournois, ces compétitions, c'est ça.
Voilà, en tout cas, parents, ne vous désespérez pas si votre ado passe ses journées sur la console, peut-être c'est un futur champion e-sport. Comme d'habitude, hein, beaucoup de joueurs, peu d'élus, évidemment, on l'a dit, hein, parce que comme sur un sport traditionnel, des champions, il n'y en a pas tous les jours. Est-ce qu'on peut faire carrière c'est compliqué, on peut en vivre?
Aujourd'hui, on peut clairement vivre de l'e-sport, hein, puisqu'il y a beaucoup de joueurs professionnels. Quand je dis beaucoup, quelques centaines rien qu'en France déjà. Ce que j'appelle joueur professionnel, c'est pas la même terminologie qu'il y a 15 ans. 15 ans, un joueur professionnel, c'est un joueur qui était fort. Aujourd'hui, joueur professionnel, c'est quelqu'un qui en vit son activité principale, il gagne au moins un SMIC, voire plus. Et puis, comme c'est très pyramidal, il y a des joueurs qui gagnent aujourd'hui plusieurs millions. Donc, on peut en vivre. Moi, ce que j'aimerais quand même dire pour répondre par rapport aux parents, c'est que comme il y a très peu d'élus, l'objectif, si votre enfant, il est plus dans cette idée de s'investir dans l'e-sport, c'est de lui donner de le conduire vers des études qui sont liés à l'e-sport. Alors ça peut être marketing commercial pour justement travailler dans des équipes, ça peut être graphiste, voilà, tous les métiers, il y a énormément de métiers. Et puis pendant qu'il fait sa, il fait son cursus, eh ben de participer à des tournois, des compétitions, potentiellement il sera peut-être repéré lors d'une LAN ou lors d'un événement. Et là, pourquoi pas à un moment donné mettre entre parenthèses ses études pendant un an, voir ce que ça donne. Et comme il sera dans un cursus qui déjà l'entraîne, on va dire, vers le monde de l'e-sport, ça lui fera une carte. Aujourd'hui, on parlait de reconversion, mais il y a beaucoup de joueurs de haut niveau qui se retrouvent à travailler à des hauts postes dans du marketing de marque, qui aujourd'hui se disent, bah nous l'e-sport, on n'y comprend pas grand-chose, on a besoin de quelqu'un en interne dans notre boîte pour porter notre marketing. Et souvent, c'est des champions d'e-sport parce que justement, ils ont toutes les connaissances. Mais c'est des champions d'e-sport qui ont continué leurs études et qui ont continué d'avancer. Parce que l'intérêt de l'e-sport, c'est que ça demande un investissement un peu moindre quand même que le sport. Donc, ça permet de faire les deux.
Bien sûr. Valentin Hérec, justement, après cette expérience que vous avez menée pendant l'été, il y a eu des, peut-être pas des vocations, mais des gens qui se sont dit, tiens, on pourrait en faire quelque chose. Finalement, on changeait peut-être d'aspect ou de vision sur ce monde du jeu vidéo, de l'e-sport.
Moi, je vais vous raconter une anecdote, notamment avec des lycéens qui ne savaient pas trop quoi faire après justement le bac. Le e-sport, ils se sont dit, et après une discussion notamment avec le service jeunesse qui a été mobilisé durant cette opération, me dire, il y a les métiers du numérique, il y a les métiers justement de toute une filière qui se développe, aussi bien même sur la communication.
Ils n'y avaient pas pensé.
Ils n'avaient pas pensé. Et c'est marrant comment cette initiative a pu amener des jeunes à réfléchir sur eux-mêmes en disant, mais voilà, en fait, c'est vaste, le monde du numérique, c'est pas seulement des jeux, c'est également tous les métiers qu'il y a derrière, développeurs, voilà, comme disait Rémi,
graphiste, community manager, dans les médias également.
C'est très vaste et en fait, on n'y pense pas forcément et j'espère qu'au moins on aura réussi à réorienter un ou deux.
Comme l'industrie grossit, de toute façon, ça va concerner de plus en plus de centaines et de milliers d'emplois, voire de dizaines de milliers d'emplois. On le souhaite en tout cas. En plus, on a des belles réussites en France. On a quand même des grands studios maintenant internationaux, évidemment. Et ça va continuer à se développer. Olivier, la saison est bien lancée, évidemment. Là, quelles sont les nouveautés ou l'actualité là, du CDFAS pour cette année?
Nous, on a une actualité sportive qui est très riche parce qu'on a 80 événements par an. Donc, on a encore un tournoi de handball international ce week-end. Mais on travaille déjà sur la prochaine édition de notre tournoi e-sport pour l'année prochaine. Et on devrait caler ça, je pense, que sur la fin juin, qui nous semble une bonne date en termes de calendrier pour pas être en confrontation avec d'autres événements internationaux de e-sport et nationaux. Donc, on pense que ça va être une belle édition.
Bon, toujours multisport. Vous avez tiré l'expérience des ajuster le tir par rapport à foot, basket, etc.
On va garder notre ADN parce que c'est ce qui nous permet de nous différencier en termes de communication des autres événements e-sport. Maintenant, on a beaucoup appris de cette édition beaucoup de points, notamment logistique, technique, réglementaire, etc. Donc la prochaine édition sera forcément meilleure, mais je pense que au-delà de la faire grandir et de la faire évoluer, on va essayer aussi de communiquer différemment parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait nos outils de communication étaient pas les bons. On était resté sur quelque chose de très traditionnel, Abribus, Print, etc. Exactement.
Bon, voilà. On l'a compris. Il faut aller là où le média de référence
sur le digital. La communauté, pour nous en tout cas, parce que on est ouvert vraiment à. On n'est pas comme mon collègue sur une commune. Nous, on est ouvert au niveau d'un département, voire de la région. Donc, on vise une communication beaucoup plus large. Et donc, ces médias, ces influenceurs, etc., ont des portées beaucoup plus larges que nos moyens de communication traditionnels.
Valentin Hérec à Vitry-sur-Seine, il y aura une deuxième édition. C'est quelque chose que vous allez pérenniser ou lancer à nouveau, peut-être cette semaine ou ces semaines e-sport.
Alors effectivement, il y aura une seconde édition, notamment durant les grandes vacances scolaires. Mais je vous informe qu'actuellement, du 2 au 3, il y a une initiative e-sport à la bibliothèque de Vitry-sur-Seine. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de multiplier les initiatives et faire découvrir cette discipline qui est en plein essor.
Et voilà, pour tous les habitants de Vitry.
Vitrio et les Vitriotes.
Ah voilà, c'était pas évident celle-là. Rémi Chanson, termine avec vous, président d'Armateam. Quelles sont les nouveautés dans la team Armateam?
Bah déjà, en effet, il y a l'événement où on accompagne la bibliothèque de Vitry, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sport, mais il y a tout le volet culturel qui est important. Et c'est vrai que les bibliothèques et médiathèques s'emparent de plus en plus de ce sujet-là. Et après, nous, on organise pas mal d'événements en Ile-de-France. On va faire un événement à Rungis aussi, pareil, à l'attention de la jeunesse, là, vers la fin du mois. Et c'est vrai que oui, notre objectif, c'est d'essayer d'organiser entre 1 et 3 événements par mois, alors avec des tailles, évidemment, plus ou moins grande, mais c'est vrai que si on peut accompagner des collectivités qui veulent se lancer pour un premier événement, en tout cas, ce sera avec plaisir.
Bon, on vous retrouve sur Twitch également.
Alors, on est sur Twitch. Après, c'est pour communiquer avec nous, c'est plus facile sur notre site. Ouais. On a un site pro.armateam.org avec justement un peu les différentes réalisations qu'on a faites, et puis surtout un moyen de nous contacter si des collectivités sont intéressées.
Bon, on termine par vos choix de gaming. Vous jouez, vous, Valentin?
Oui, un petit peu, mais l'emploi du temps permet pas forcément de...
Mais c'est quoi en ce moment? C'est plus sur le portable, plus sur la console?
Non, là, je suis plutôt console, notamment FIFA. On teste le nouveau FIFA 22. Donc,
eh oui, qui vient de sortir.
C'est ça.
Avec Mbappé sur la fiche, je crois.
C'est vrai, la jaquette.
C'est ça.
C'est une grande gloire, hein, quand même. C'est super, c'est international. Hein. Olivier, vous, plus sport que e-sport?
Exactement. Mais okay. J'ai découvert Smash à l'occasion de notre événement et je vais acheter une console à mon fils et je crois qu'on va s'y mettre.
Ah bah c'est sympa en plus de jouer avec son fiston, c'est super. Bon, et le pape de l'e-sport sur la table en tout cas, Rémi, c'est quoi le jeu du moment?
Moi je joue avec mes enfants aussi, hein. J'ai deux enfants, 9 et 11 ans, et c'est vrai qu'on joue à LOL assez régulièrement parce que ça permet de...
LOL, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on
League of Legends, c'est le jeu numéro 1 e-sport, mais qui est un jeu collectif. Donc, à chacun a des rôles, un peu comme dans une équipe. Et donc, le fait de jouer avec mes enfants, ça me permet, de passer un moment avec eux. Ouais. Mais en plus, après, on analyse les parties, on débrief et tout. Et moi, quand j'avais 4 ans, mon père m'a appris à jouer aux échecs et je considère que ça m'a beaucoup aidé à former ma manière de penser, d'anticiper. Et j'essaie de faire un peu la même chose avec mes enfants. Je leur ai évidemment aussi appris
les
échecs.
La maman, elle est toujours là ou elle a jeté l'éponge?
La maman, ouais, les jeux vidéo, elle est un peu moins dessus. Elle joue un peu avec nous de temps en temps.
Et pourtant, il y a vachement de jeux maintenant que les femmes aiment aussi. C'est plus réservé aux garçons.
Totalement. Ouais. Mais dans ma génération, c'est vrai que ça restait quand même assez masculin. Mais dans la génération qui arrive, c'est extrêmement féminin. Même des jeux, on prend l'exemple de Fortnite, il y a beaucoup de jeunes filles qui jouent à Fortnite, alors que ça aurait été impensable il y a une quinzaine d'années sur un jeu un peu équivalent. Donc oui, ça se féminise et c'est très bien d'ailleurs.
Un grand merci en tout cas à vous tous, Valentin Yerga, adjoint au maire de Vitry-sur-Seine en charge du développement local et sportif. Merci Olivier Lebever, je rappelle que vous êtes directeur du développement du CDFAS département Val-d'Oise, et Rémi Chanson, le président d'Armateam. Merci pour votre grande, en tout cas profondeur d'analyse, connaissance. On a refait la table ronde en direct sur Radio Territorial. Merci messieurs et merci. À très bientôt sur notre antenne. Merci.
Le CELIF, le salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.